Ce soir, c'est la dernière dans cette série. Et le thème, c'est sur la paix intérieure. Et j'ai dit, enfin, décrochage ou détachement. Alors, j'ai pensé que ça serait bon de commencer en essayant de cibler qu'est-ce que c'est la paix intérieure. Alors, j'ai demandé à Monique de lire un certain passage des écrits Baha'i, des causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, où Abdu'l-Baha cerne la question de la paix intérieure.
Si tu peux lire dans le micro.
Mon Dieu, nous sommes influencés par deux sentiments, la joie et la peine. La joie nous donne des ailes. Quand nous sommes heureux, notre énergie est plus grande, notre intelligence plus vive et notre compréhension moins voilée. Nous semblons mieux à même d'affronter la vie et de découvrir un champ d'activité utile. Mais quand la tristesse nous étreint, notre force nous abandonne. Nous devenons faibles, notre compréhension diminue et notre intelligence s'obscurcit. Les réalités de l'existence semblent nous échapper. Les yeux de notre esprit ne réussissent pas à découvrir les mystères sacrés et nous devenons comme des êtres sans vie. Aucune créature humaine n'est à l'abri de ces deux influences. Mais tous les chagrins et toutes les afflictions proviennent du monde de la matière. Le monde spirituel ne dispense que la joie. Nos souffrances sont dues à des causes matérielles. Toutes les épreuves et tous les soucis proviennent de ce monde d'illusions. Un marchand pourra, par exemple, faire faillite et tomber dans le découragement, un ouvrier être congédié et réduit à des privations, un fermier faire une mauvaise récolte et se sentir plein d'angoisse, un homme qui a construit sa maison et la voit anéantie par un incendie se trouvera aussitôt sans foyer, ruiné et désespéré. Tous ces exemples sont destinés à vous montrer que les épreuves qui vous assaillent à chaque pas, tous nos chagrins, nos peines, nos humiliations et nos douleurs sont d'origine matérielle, tandis que le monde spirituel n'est jamais cause de tristesse. L'homme qui dirige ses pensées vers ce royaume connaît une joie sans fin. Les maux physiques ne l'atteignent pas. Il l'affecte seulement d'une manière superficielle, mais il demeure au fond de lui-même dans le calme et la sérénité. L'humanité fléchit aujourd'hui sous le poids de l'inquiétude, du chagrin et de la douleur. Personne n'y échappe. Le monde est une vallée de larmes. Mais grâce à Dieu, le remède est à notre portée. Que notre cœur se détourne de la matière pour vivre dans le monde de l'esprit. Seul ce monde peut nous donner la liberté. Si nous sommes entourés de difficultés, il nous suffit d'invoquer Dieu et par sa grâce infinie, nous serons assistés. Si nous sommes dans l'adversité et le chagrin, que notre visage se tourne vers le royaume qui nous apportera la consolation céleste. Sommes-nous souffrants ou malheureux, implorons Dieu notre guérison et il nous exaucera. Quand nos pensées sont remplies par l'amertume de ce monde, tournons notre esprit vers la douceur de la compréhension divine. Le calme céleste nous envahira. Sommes-nous emprisonnés sur cette vie touche à sa fin. Songeons au monde éternel et nous serons dans la peur de vous. Vous découvrirez l'épreuve de l'insuffisance des choses matérielles qui sont transitoires et qui ne peuvent donner ni la joie, ni le repos, ni la paix, ni la consolation. N'est-ce donc pas une folie de se refuser à chercher ces trésors où ils peuvent être trouvés? Les portes du royaume spirituel sont ouvertes à tous. Hors de ce royaume, ce n'est que ténèbres absolues. Vous tous ici présents, vous savez cela. Alors, vous pouvez trouver la consolation suprême. Si vos jours sont comptés sur la terre, vous savez que la vie éternelle vous attend. Si les soucis matériels vous enveloppent d'un obscur nuage, Le rayonnement spirituel éclaire votre chemin. En vérité, ceux qui sont éclairés par l'Esprit du Très-Haut connaissent la consolation suprême. J'ai vécu moi-même en prison pendant 40 années, alors qu'une seule aurait déjà été impossible à supporter. Personne ne survécut plus d'un an à cet emprisonnement. Mais grâce à Dieu, pendant ces 40 années, je fus suprêmement heureux. Chaque jour, au réveil, annonce d'une bonne nouvelle, et chaque nuit, je ressentais une joie infinie. Les pensées spirituelles étaient mon réconfort, et recourir à Dieu était mon plus grand bonheur. S'il n'en avait été ainsi, croyez-vous que j'aurais pu supporter ces 40 années de prison? Ainsi, la spiritualité est le plus grand don de Dieu, et recours à Dieu dans la vie éternelle. Puissiez-vous les uns et les autres progresser chaque jour sur le plan spirituel. Puissiez-vous être fortifiés pour tout ce qui est bon. Puisse la divine consolation vous soutenir de plus en plus et l'Esprit Saint vous libérer. Puisse enfin le pouvoir du divin royaume s'établir et agir parmi vous. Tel est mon plus grand désir. Et je prie Dieu de vous accorder cette faveur.
Merci. Alors, je pense que ce passage est très riche. Alors, j'aimerais juste souligner quelques éléments. D'abord, ce passage reconnaît la nature de notre expérience de vie, que nous vivons tous des difficultés et que personne n'y échappe. Parce que parfois, on se sent d'autant plus peiné quand on pense que ben, pourquoi ça m'arrive à moi, ça arrive seulement à moi, ça n'arrive pas à d'autres personnes. Alors en fait, je pense que ça nous donne déjà une perspective importante, juste de se rappeler que ça arrive à tout le monde. Et que ce qui nous arrive, c'est à nous de le porter. Mais il arrive à tout le monde des choses, comme Judith a lu, la vie est un fardeau. C'est Abdu'l Baha qui a dit, la vie est un fardeau à supporter dans ce monde. Donc, la deuxième chose qu'il dit, que j'aimerais souligner, c'est que c'est notre attachement au monde matériel qui est la source de nos souffrances. C'est-à-dire que il a dit à un moment donné que toute souffrance vient du monde matériel et que le monde spirituel ne donne que la joie. Donc le chagrin ne peut pas venir du monde spirituel. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas souffrir dans le monde spirituel. Mais nos souffrances dans le monde spirituel seraient dues encore à nos attachements à ce monde. Le monde spirituel lui-même n'est pas l'auteur des malheurs, comme il explique, il insiste très fort là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque. Donc c'est pourquoi je modifie légèrement la chose en disant, la source de nos malheurs ou de nos souffrances, c'est notre attachement au monde matériel. Ce n'est pas juste le fait du monde matériel, mais c'est notre attachement. Parce que, dernière chose qu'il dit, qu'on peut vivre heureux dans ce monde, malgré les conditions du monde matériel, et la façon, c'est, comme il dit, de se tourner vers le monde spirituel. Il parle de son emprisonnement de 40 ans. Comme il dit, normalement, une personne n'aurait pas pu survivre plus d'un an dans ces conditions. Lui, il a survécu 40 ans. Il a dit, j'étais heureux tous les jours parce que je me tournais entièrement vers Dieu. Donc, le bonheur spirituel, ce qui pour Abdu'l Baha est le seul bonheur véritable, durable, est indépendant des conditions matérielles. Bien sûr, il a des jouissances matérielles. Mais la nature des jouissances matérielles, c'est qu'ils sont toujours limités et temporaires. Et ça pour la raison suivante, que les jouissances matérielles sont toujours la satisfaction d'un besoin. Donc, vous avez faim, c'est un besoin. vous mangez un bon repas, vous êtes comblé. Mais demain, vous allez de nouveau avoir faim. Et si vous n'arrivez pas à manger demain, peu importe aussi bon que puisse être le repas que vous avez mangé aujourd'hui, si demain, en quelques jours, vous n'avez plus rien à manger, le fait d'avoir bien mangé aujourd'hui ne vous portera plus de bonheur, n'est-ce pas? Parce que vous avez autant faim, vous souffrez autant de la faim que vous ayez bien mangé aujourd'hui ou non, n'est-ce pas? Donc, la satisfaction que ça rapporte, c'est limité dans le temps, c'est temporaire, et c'est limité parce que, pourquoi? Parce que les besoins humains sont finis, sont limités, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez comblé le besoin, c'est la satisfaction. Il ne peut pas y avoir plus de satisfaction. Pour reprendre mon exemple, si vous continuez à manger une fois que vous êtes comblé, ça devient négatif. Ce n'est plus une satisfaction, ça devient même une chose horrible, n'est-ce pas? Enfin, vous devenez malade, vous vomissez, etc. Enfin, je ne vous décris pas le tout. Mais en fait, donc, puisque c'est satisfaction de besoin, il a une limite stricte à la satisfaction. Et si vous essayez de poursuivre la satisfaction au-delà de cette limite, ça tourne contre vous. Il n'y a aucun moyen de transformer cette satisfaction matérielle dans un bonheur durable. C'est logiquement impossible, c'est impossible. Ce n'est pas simplement que c'est difficile ou qu'il faut trouver des trucs pour le faire, c'est impossible de le faire. Tandis que, comme Abdu'l-Bahá dit, on ne peut pas avoir trop d'amour. On ne peut pas dire trop de prières. On ne peut pas être trop proche de Dieu. On ne peut pas trop servir les autres. On ne peut pas être trop modeste. Et donc, dans tous les paramètres spirituels, il n'y a pas de limite. Plus qu'il en a, plus grand est le bonheur. Est-ce qu'il a une limite? Si vous avez beaucoup d'amour dans votre vie, et si il a moyen que vous ayez encore plus d'amour dans votre vie, est-ce que vous allez refuser? Parce que vous dites, j'ai assez d'amour, je n'ai plus besoin d'amour. Parce que l'amour est un bien en soi. Ce n'est pas juste la satisfaction de besoin. L'amour est toujours expérimenté de façon positive, ok? Et aimer est toujours expérimenté de façon positive. Donner et recevoir l'amour est expérimenté, donc et celui qui donne et celui qui reçoit expérimente cela de façon positive. Parce que c'est un bien en soi. Et ça, c'est la nature, comme Abdu'l-Bahá dit, du monde spirituel, que les joies spirituelles sont durables parce qu'ils ne sont pas limités. Ils ne sont pas limités, il n'y a pas de limite dans notre recherche de la proximité de Dieu ou dans le service aux autres ou dans l'amour, etc. Donc, si on cherche la tranquillité d'esprit en cherchant à nous mettre à l'abri des difficultés du monde matériel, nous n'allons sûrement pas réussir. Ok? Parce que, on peut croire, évidemment, nous vivons dans une culture où on essaye de le faire. On a des compagnies d'assurance, on peut s'assurer contre toutes sortes de choses, n'est-ce pas, etc. Et bien, on a quand même une vie matérielle ici qui est quand même assez bien réglée, assez bien agencée. Mais on a aussi un des plus grands taux de suicide des jeunes dans le monde, n'est-ce pas? Et le pays qui a actuellement le plus grand standard de vie dans le monde, qui est la Finlande, a le plus grand taux d'alcoolisme dans le monde. Et ma femme et moi avons visité la Finlande et plusieurs reprises. Et c'est un peuple qui crée son propre malheur. Ce sont des gens solitaires, Ils sont très solitaires et très... c'est un peuple, enfin, qui vit dans une sorte de tristesse et qui jouissent de ça, en fait. Pour eux, ça, c'est la vie, de vivre de cette manière-là, solitaire, un peu triste, enfin... moi, je connais des Finlandais qui n'ont même pas une seule amie dans leur vie, n'est-ce pas, en fait. Vous connaissez cette sorte de mentalité, en fait. Alors, donc... c'est pas le fait d'être à l'abri ou relativement à l'abri des problèmes matériels qui rend les gens heureux. Et de toute façon, on ne peut pas se mettre à l'abri parce que vous pouvez contracter toutes les assurances que vous voulez, etc., etc. Vous pouvez être renversé par une voiture demain, vous pouvez tomber en vélo comme j'ai fait l'autre jour. Vous pouvez avoir le cancer qui peut être dépisté demain, en fait, moi je ne veux pas vous faire peur, mais je veux dire, nous n'avons aucun contrôle sur ces choses-là. Donc, on sait logiquement d'avance que se mettre à l'abri des difficultés de ce monde n'est pas possible. Alors, un homme est sage quand il tire les conclusions de sa logique. Quand il est prêt à vivre les conclusions de sa logique. Puisque nous savons certainement que ce n'est pas possible de se mettre à l'abri des difficultés de ce monde, pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir le faire? Il vaut mieux trouver une façon d'affronter ces difficultés et de les affronter d'une façon à garder le bonheur. Et c'est ça qu'Abdu'l-Bahá dit, qui est possible. Évidemment, on pourrait dire, peut-être que ce n'est pas possible, peut-être Dieu c'est le diable, peut-être on nous a créés dans une situation où le bonheur n'est pas possible. Mais Abdu'l-Bahá dit que non, tous les grands prophètes ont dit que non, que justement, comme Abdu'l-Bahá dit dans un autre passage qu'on n'a pas lu, que... Une des raisons que Dieu a mis les épreuves et difficultés dans la vie matérielle, c'est pour entraîner l'homme à se détacher de ce monde et se tourner vers le monde matériel. Mais ici, on entre dans une chose un peu subtile. Ça doit être un acte de volonté de la personne. C'est-à-dire, vous pouvez dire, mais pourquoi, si Dieu veut qu'on se tourne vers le monde spirituel, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas créés tout simplement dans le monde spirituel? Il ne nous a pas créés simplement où on se tourne naturellement vers le monde spirituel. Pourquoi toute cette histoire du détachement du monde matériel et les chagrins et tout ça? Bien, Abdu'l-Bahá explique que c'est parce que pour notre plus grand bien, Dieu nous a donné la capacité de collaborer à notre propre devenir. Et ça, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, nous avons une liberté de choix. Et donc, Dieu nous a donné, pour ainsi dire, des signes de route pour nous inciter à faire des bons choix, mais il ne nous impose pas ces choix. Donc, cette paix intérieure dont Abdu'l-Bahá a parlé, quand l'homme, au fond de lui-même, n'est pas perturbé, enfin, un peu, une des images qu'on trouve ailleurs, c'est comme une tempête qui rage dans l'océan, mais dans les profondeurs de l'océan, les poissons et tout ça, les animaux qui vivent au fond de l'océan ne sont pas du tout dérangés par cela, n'est-ce pas, en fait. La plus grande tempête peut rager sur la surface de l'océan, mais les profondeurs ne sont pas troublées pour autant. Donc c'est un peu l'image qu'Abdu'l-Bahá donne, que on ne va pas éviter qu'il y ait des tempêtes, mais si on est centré sur le monde spirituel, on est comme dans ses profondeurs, où tout simplement on n'est pas touché par ces événements. Mais ça prend un acte de volonté consciente. Ce n'est pas une chose qui est automatique. Et c'est pourquoi j'ai eu le petit thème enfin qu'on a ce soir, si c'est décrochage ou détachement. Parce que le décrochage, c'est le laisser-aller. Ce n'est pas un laisser-aller. Le détachement, ce n'est pas un laisser-aller. Le laisser-aller, c'est l'abandon. C'est l'abandon, c'est la dépression, c'est la... c'est pas le bonheur, c'est la tristesse, n'est-ce pas, l'abandon, c'est l'indifférence, n'est-ce pas, en fait, c'est le laisser aller, enfin, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, enfin, pourquoi faire d'efforts, il n'y a rien qui marche, etc., etc. C'est la dépression, c'est le point de vue négatif sur la vie. Alors, donc, il y a des gens qui prennent le décrochage pour le détachement. Ils disent, bon, je suis détaché de la vie, je prends les drogues, je fais n'importe quoi, ce que je veux, et je me fous des conséquences. Je me fous des conséquences. Ça, c'est le décrochage. J'ai parlé dernièrement avec un ami Bahaï, un noir, qui est conseiller, enfin, animateur auprès des jeunes à Cincinnati. Et Cincinnati, c'est une ville aux États-Unis qui a, enfin, ces derniers temps, de toute façon, eu des problèmes raciaux particulièrement graves. Enfin, c'était suite à une histoire, comme on connaît ailleurs, où les officiers, les policiers, ont descendu un noir qui, en fin de compte, n'était coupable de rien et tout ça. Enfin, bon, et ça fait toute une émeute dans le pays, etc. Mais, donc, il travaillait auprès des jeunes noirs. Et il a essayé de les conscientiser pour les rendre responsables de leurs gestes. Parce qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, ils sont déjà dans la drogue et tout ce que vous voulez, enfin, trafic de drogue, tout ce que vous voulez, enfin, la vie complètement désordonnée. Comme ils disent, ils prennent ce qu'ils veulent. S'ils voient quelqu'un qui a des espadrilles de Nike qu'ils veulent, ben, ils les prennent tout simplement, n'est-ce pas? Ils font ce qu'il faut pour le prendre. Si ça prend un couteau, si ça prend un fusil, ben, ils prennent un fusil, ils prennent un flingue. Et puis, s'ils doivent descendre le type, ils descendent le type. Et puis, voilà, ben, parce que ce que je veux, c'est les espadrilles. Et je les veux, donc je les prends. Alors, ça, c'est le niveau de vie. Alors, il a essayé de les conscientiser. Et puis, il m'a dit la chose suivante. Il a essayé de dire, par exemple, mais pourquoi tu as volé ces espadrilles, par exemple? Parce que je les voulais. Il dit, mais tu aurais pu travailler pour... Le vol, ce n'était pas la seule option pour avoir les espadrilles. Il dit, non, mais c'était le plus simple. C'était le plus simple. Il dit, mais c'est le plus simple, tu as les espadrilles à court terme, mais quelles sont les conséquences futures de ton geste? Et le type dit, mais qu'est-ce que c'est le futur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il a dit, littéralement, le type n'avait aucune conception de l'avenir. C'est-à-dire, il vivait entièrement ses besoins instinctifs du moment. Et que son plus grande difficulté, l'animateur a dit, la plus grande difficulté, c'était de faire comprendre qu'il y ait des conséquences à long terme des actions. OK? Il n'avait même pas la conception qu'il a des choses à long terme. Par exemple, il venait me voir là, si tu continues à voler, tu vas être en prison. Bon, ben, je ne suis pas en prison maintenant. Je ne suis pas en prison, j'ai volé, je ne suis pas en prison. Mais si tu continues à le faire, tu peux être attrapé en prison. Bon, ben, j'ai des copains qui sont en prison, ben, finissent par sortir, ben, on vit en prison aussi. Ça n'a pas de différence, on mange bien, on fait, etc. Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, vous voyez l'idée, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que c'est instinctif que les gens pensent moralement ou qu'ils pensent à des conséquences morales et spirituelles des gestes qu'ils posent dans le média. Ce n'est pas instinctif, c'est un choix. En tout cas, ça, c'est le décrochage. Si vous voulez un portrait du décrochage, ça, c'est le décrochage au max, ok? Tandis que le détachement résulte d'une volonté de se tourner vers le monde spirituel. Et tout en vivant pleinement dans le monde matériel, de ne pas être attaché, c'est-à-dire de ne pas mettre son espoir, c'est-à-dire de vivre simplement en fonction de cette connaissance, du caractère limité et fini et temporaire des jouissances humaines. Donc on ne mise pas dessus. On en jouit, Abdu'l-Bahá a dit, ce n'est pas l'ascétisme dont on parle, ce n'est pas la privation matérielle. Et ça, c'est un autre piège. C'est que le détachement, c'est la privation. J'ai lu l'histoire l'autre jour d'un gourou, enfin un homme saint en Inde, qui parlait d'un type d'un roi qui avait dit « Mais je suis roi, j'ai tout mon royaume et tout, mais je veux être détaché, je veux vraiment le détachement. » Alors bon, j'éternise pas l'histoire, il a quitté sa position, il est allé vivre dans une caverne à la campagne, dans la pauvreté et tout ça, il a renoncé à tout. Et puis, après 20 ans, enfin, il a fait toutes les mortifications, les ascétismes possibles. Et il dit, finalement, il rencontre le gourou et il dit, mais j'ai fait toutes ces mortifications pendant toutes ces années, j'ai tout abandonné, toute ma position dans le monde, etc., etc. Et je ressens que je n'ai pas encore atteint le détachement. Alors le gourou avait dit, mais est-ce que tu as essayé de te détacher de ton ego? Donc le détachement, c'est une attitude intérieure. C'est la façon, c'est la sorte de lien que nous avons avec des choses matérielles. Ce n'est pas le fait de s'approprier des choses matérielles, mais c'est le lien qu'on a avec ces choses-là. Par exemple, je donne un autre exemple. Nous savons très bien, par des recherches psychologiques, que la grosse majorité des biens matériels que les gens consomment ont une valeur purement symbolique. Par exemple, pour un homme, la voiture peut être un symbole de sa virilité sexuelle, n'est-ce pas, une voiture puissante, etc. Etc. C'est-à-dire, bon, on a besoin de certains habillements, n'est-ce pas, de certaines nourritures, mais on peut vivre avec beaucoup moins qu'on a, n'est-ce pas? Et la plupart des choses qu'on consomme, on pense qu'on consomme quand on a besoin, en réalité, c'est des besoins strictement psychologiques, symboliques, et on achète des choses qu'on n'a même pas besoin, on sait même qu'on n'a pas besoin quand on les achète. Comme le comique américain Robin Williams, il dit, voilà comment soigner votre consumérisme, n'est-ce pas, en fait. Il dit, il faut vous mettre dans une position de méditation et dire, je m'arrêterai d'acheter de la merde dont je n'ai pas besoin. Je m'arrêterai à acheter de la merde dont je n'ai pas besoin. en tout cas, donc, résumé, il a une façon d'être heureux dans ce monde. Cette façon, c'est de se tourner vers le monde spirituel. Et ça ne veut pas dire renoncer à abandonner des jouissances matérielles, mais ça veut dire quand on ne donne pas une valeur à ces jouissances matérielles qui va au-delà de leurs limites évidentes. Donc on ne donne pas une valeur symbolique. On n'investit pas ces choses-là d'une valeur spirituelle qu'ils n'ont pas. On investit dans, comme Jésus a dit, le royaume du ciel. On fait des trésors au ciel, n'est-ce pas? Et ça se fait par un acte de volonté, pas simplement un acte de volonté, mais des actes de volonté, par acte de volonté, par une discipline spirituelle, si vous voulez. Parce que c'est un acte qu'on fait tous les jours, donc, pour se tourner vers le monde spirituel, il faut quand même se rappeler, il faut faire ça. Et je peux vous dire juste une dernière chose, enfin j'ai souvent dans mes petites causeries parlé de notre expérience en Russie qui nous a beaucoup marqué. Et je dois, parmi toute autre chose, je dois beaucoup à la Russie pour la raison suivante. Que la vie là-bas, du point de vue matériel, était tellement rudimentaire qu'à tout moment, on est face aux réalités crues de la vie. C'est-à-dire que ici, nous avons des attentes que tout va marcher, n'est-ce pas? Ben, vous attendez que si vous allez au téléphone, si vous avez une urgence, vous allez au téléphone, vous composez le 911, etc. Ça va marcher, bien sûr, ça va marcher, parce qu'on paye pour le service téléphonique. Et puis, si ça ne marchait pas, personne ne va payer et la compagnie de téléphone va faire faillite. Donc le capitalisme, ça assure que... on s'attend à ce que tout nous soit fait. Et puis donc, c'est très difficile dans ces conditions-là, où tout semble marcher, de se rendre compte à quel point on dépend de Dieu, n'est-ce pas? Parce que se tourner vers le monde spirituel, c'est en quelque sorte une prise de conscience du fait qu'on dépend de Dieu. Et en Russie, cette prise de conscience est très facile, n'est-ce pas? Vous allez, une fois, par exemple, nos téléphones ne fonctionnaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait volé les fils. Les fils, c'était du cuivre, n'est-ce pas? Les gens avaient déterré les fils téléphoniques et pris le cuivre pour le vendre. Alors, ça a pris quand même quelques semaines avant qu'on ait de nouveau un service téléphonique. Et puis, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez dire, moi, je ne vais pas payer ma facture de téléphone. Alors, d'accord, vous ne payez pas votre facture de téléphone, et puis, ils vont vous couper le service, et, etc., etc., n'est-ce pas? Mais, tout appareil matériel, pendant nos 5 ans en Russie, il en vaut moins une fois où tout appareil a fait faillite. Okay? La toilette, okay? On était plus jusqu'à la toilette. L'électricité dans le bâtiment, l'électricité dans l'appartement. D'ailleurs, l'électricité dans le bâtiment a pris feu. Il a pris feu parce que c'était très vieux, j'imagine que c'était une étincelle ou quelque chose qui avait commencé. Alors, moi, je suis descendu avec une bombe de crème à barbe pour éteindre le feu. Et les maîtres, ce qu'on appelle les maîtres électriciens, sont venus parce que chaque région de la ville a ce qu'ils appellent des maîtres qui sont chargés de faire des réparations dans ce secteur de la ville. Alors ils sont venus, ils étaient très impressionnés que ce gros con d'occidental a su qu'il ne fallait pas mettre de l'eau sur les choses pour éteindre le feu électrique. J'ai mis la bombe de crème à raser, il était très impressionné. Il dit, Alors, en tout cas, comme j'ai dit, je dois beaucoup à la Russie parce que là, la seule chose à laquelle on pouvait se fier, c'était Dieu. On ne pouvait se fier à rien d'autre que Dieu. OK? Alors, quand vous vivez dans cette situation-là, vous vous rendez compte à quel point le monde matériel dans lequel nous vivons ici est une illusion, quand même. C'est vraiment une illusion. Mais c'est difficile de se détacher de cette illusion en vivant dans ces conditions. Mais c'est quand même l'effort qu'il nous faut faire si on veut vraiment gagner cette paix intérieure dont Abou Bara parle. Alors, c'est tout.